quelqu'un ou quelque chose s'en prend aux scientifiques, quoi que ce soit, ça nous observe et ça nous écoute.
Le compte à rebours est lancé. C'est une des séries les plus attendues sur Netflix en 2024, développée par les créateurs de Game of Thrones. Il s'agit d'une série de science-fiction, Le problème à trois corps, basée sur le roman de l'écrivain chinois Liu Cixin. Le pitch ? Attention, spoiler ! Ou pas ? Si vous avez lu au moins la moitié du premier tome de l'œuvre de Liu Cixin, n'ayez crainte, je ne révélerai rien qui ne vous surprenne. Mais si vous préférez voir la série avant d'écouter ce podcast, pas de problème. Et vous verrez que la réalité dépasse parfois les romans de science-fiction. Je reprends donc. Le pitch. En pleine révolution culturelle chinoise, Ye Wenye, une jeune astrophysicienne, travaille sur un système de télétransmission dirigé vers l'espace. C'est alors qu'un premier contact avec un monde extraterrestre est établi. Et c'est ainsi que les scientifiques découvrent que des aliens prévoient d'envahir la Terre. Des envahisseurs venus de la planète Trisolaris, située dans le système d'Alpha du Centaure. Ça, c'est l'histoire. Mais le problème à trois corps, c'est d'abord un casse-tête pour les scientifiques.
Alors, les corps dont on parle, ce sont des astres, donc des étoiles ou des planètes. Et ce qu'on appelle le problème à trois corps, c'est un problème mathématique de mécanique céleste.
Bienvenue dans Microsciences. Microsciences, un podcast de la RTS. Notre scientifique, il est bien terrien, bien réel et bien de notre temps. Il s'appelle David Ehrenreich et il est professeur associé à l'Université de Genève au département d'astronomie. Comme moi, il a adoré le problème à trois corps. C'est donc avec lui qu'on va se plonger dans la mécanique céleste qui vise à décrire les trajectoires des astres, les planètes autour du Soleil, par exemple. Et on ira visiter des planètes lointaines où il neige parfois du fer. Mais avant cela, évacuons le problème à trois corps.
Ce qu'on essaye de faire, c'est de prédire la position de trois astres, donc les trois corps, au cours du temps. Par exemple, la position de deux planètes tournant autour du Soleil ou de trois étoiles tournant les unes autour des autres dans un système triple.
Vu comme cela, ça paraît facile. On décortique le problème en plus petits problèmes plus simples. Prenons la Terre et le Soleil, un système double. La Terre tourne autour du Soleil et voilà.
C'est ce qu'on appelle le problème à deux corps. On a deux objets qui se tournent l'un autour de l'autre. Alors l'un étant beaucoup plus gros, le Soleil va beaucoup moins tourner et la Terre va tourner de manière beaucoup plus ostensible autour de lui. Et ce problème à deux corps a été résolu en fait dès la fin du XVIIe siècle par Isaac Newton et qui est calculable en général de façon exacte. Mais dès qu'on passe à trois corps ou plus, où on va souvent exprimer ça comme n corps, donc on va appeler ça le problème à n corps, eh bien, en fait, les calculs deviennent extrêmement compliqués.
Oh, il faut juste une feuille de papier et un peu de patience.
Ça peut paraître facile parce que dans l'espace, on s'imagine en fait que rien ne viendra entraver le mouvement des astres. En réalité, ce qui rend la chose problématique, c'est que les astres s'attirent mutuellement par la force de gravitation.
Et donc, les trajectoires des astres sont légèrement déviées par rapport à ce que l'on aurait imaginé.
Parce que les objets vont s'attirer mutuellement les uns les autres. Alors, il existe des solutions, et notamment qui sont mentionnées dans le livre de Liu Cixin, mais en pratique, elles ne permettent pas de calculer facilement et rapidement la position de trois astres ou plus, les uns par rapport aux autres. Alors, on préfère, dans ce cas, faire des calculs avec des ordinateurs. Et toutes les solutions qu'on va obtenir, qui seront donc approximatives, en fait, elles vont être extrêmement sensibles à ce qu'on appelle en science, on appelle ça les conditions initiales. En fait, on dit que le système devient chaotique.
Un système chaotique. C'est quoi, au juste, le chaos en science ?
Le chaos, c'est un peu l'impossibilité de prévoir le futur. Alors, je peux vous prendre un exemple pour essayer d'illustrer un petit peu.
Oui, un scientifique va nous faire jaillir du chaos, là maintenant.
Dans l'exemple que vous preniez de la Terre autour du Soleil, vous avez une seule planète isolée qui tourne autour de son étoile en un an sans que rien ne vienne l'embêter ou perturber son orbite. Et maintenant, si je cherche à calculer la position de la Terre tous les ans à partir d'une seule mesure initiale que j'aurais effectuée avec une marge d'erreur, disons, d'un kilomètre, d'accord ? Donc ça, c'est mon incertitude sur la position de la Terre, c'est un kilomètre. Donc ce qui est vraiment un pouillème.
Exactement. Un pouillème, c'est vraiment très peu. C'est même exactement le contraire d'un moultième. Un kilomètre d'erreur sur un peu moins d'un milliard de kilomètres parcourus par la Terre en une année autour du Soleil, on ne va pas pinailler. Ou peut-être que si.
L'incertitude sur la position de la planète, elle va croître à chaque fois que la planète fait un tour. Et au bout de 10 ans, si je remesure pas, j'aurai une incertitude de 10 km. C'est ce qu'on appelle en fait une croissance linéaire. Maintenant, si on imagine que j'ai d'autres planètes dans le système, ce qui se passe en réalité, et que la position de chacune de ces planètes a également une incertitude, une marge d'erreur, et qu'en plus de ça, elles vont influencer la position de la Terre en fonction de leurs propres positions respectives, parce que suivant qu'elles soient plus ou moins loin de la Terre, elles vont l'attirer un tout petit peu de manière un peu différente, alors l'incertitude sur la position de ma Terre, elle va exploser très rapidement. C'est ce qu'on appelle une croissance exponentielle.
Je commence à comprendre. Je peux faire des calculs sur de court terme, mais à long terme...
Et ça, c'est un résultat qui est assez surprenant, qui a été montré dans les années 90 par un chercheur français de l'Observatoire de Paris, Jacques Lascar. Les orbites des planètes du système solaire, en réalité, sont chaotiques. Si bien que, au-delà d'une certaine limite de temps, donc il y a à peu près 50 millions d'années dans cet ordre-là, en fait, on n'est plus capable que de faire des probabilités et des statistiques. On peut même faire des statistiques assez effrayantes, du genre calculer quelle est la chance que telle planète va venir rentrer en collision avec telle autre. Alors les chances, je vous rassure, sont faibles, mais on ne peut pas exclure que les planètes, les orbites ne soient plus stables sur de très grandes échelles de temps.
C'est ce problème à trois corps qui est au cœur des préoccupations des habitants de la planète Trisolaris. Dans le roman et dans la série en tout cas. Mais Trisolaris, existe-t-elle vraiment ?
Oui et non. Dans le roman, Trisolaris, c'est une exoplanète, donc une planète qui tourne autour d'une autre étoile que le système solaire, qui tourne en fait autour de trois étoiles à la fois. C'est ce qu'on appelle une exoplanète circumtriple. Alors on comprend assez rapidement que ces trois étoiles dont il est question, ce sont en fait le système d'Alpha du Centaure, qui est le plus proche voisin de notre Soleil. Et c'est le balai complexe et complètement imprédictible de ces trois étoiles qui orbitent dans le livre de manière assez rapprochée et qui ont des masses à peu près similaires. C'est ça qui rend l'orbite de Trisolaris complètement chaotique.
Et donc, si c'est chaotique, on ne peut rien prévoir. Et on se demande quel soleil va se lever ou pas. Mais dans la vraie vie, et dans notre galaxie, c'est comment le système d'Alpha du Centaure, là où se trouve Trisolaris ?
Alors il y a bien trois étoiles, mais la configuration est un petit peu différente. En fait, on a les deux étoiles, les deux plus brillantes, qu'on appelle prosaïquement Alpha Centauri A et Alpha Centauri B. Elles sont assez proches l'une de l'autre. En fait, elles forment un système binaire, qui tourne en à peu près 80 ans.
Deux étoiles assez proches. Proches comment ?
C'est la même distance que la distance entre le Soleil et Saturne. C'est à peu près 10 fois la distance Terre-Soleil.
Donc, deux Soleils, l'un à la place du Soleil, l'autre à la place de Saturne. Et la troisième étoile ?
Elle est beaucoup plus loin. Et ce qui la rend fascinante, c'est qu'elle est beaucoup plus loin, mais dans la direction du Soleil. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'étoile la plus proche de nous, d'où son nom, Proxima du Centaure. Par contre, c'est une étoile qui est assez différente du Soleil, contrairement à Alpha du Centaure A et B, qui sont des étoiles qui ressemblent beaucoup au Soleil. Proxima, elle, c'est une toute petite étoile, très faible, qu'on ne voit pas à l'œil nu, bien qu'elle soit la plus proche de nous. C'est ce qu'on appelle une naine rouge. Et en fait, elle est un tout petit peu plus grosse que Jupiter, la plus grosse de nos planètes. Donc c'est vraiment une toute petite étoile.
Ok, trois étoiles. Alpha du Centaure A et B et Proxima du Centaure. Et Trisolaris, la planète, elle existe ?
Figurez-vous que nous avons bien détecté un système d'exoplanètes autour de Proxima Et donc non seulement on en a détecté un, mais en plus on l'a détecté avec des instruments construits par l'observatoire de l'Université de Genève, qu'on appelle ARPS et ESPRESSO, et qui se trouve au télescope européen austral au Chili.
On a donc découvert l'équivalent de Trisolaris, une planète autour de Proxima du Centaure. Elle s'appelle Proxima B, bêtement. Et dans la réalité, les deux autres étoiles sont beaucoup plus loin. Et ça, ça change pas mal les choses. Proxima B n'a qu'un seul soleil, une seule étoile autour de laquelle elle tourne. C'est nul. Il n'y a pas de problème à trois corps dans ce système. Dans le roman, la planète Trisolaris est chahutée par la présence des trois soleils.
Alors si je me rappelle bien ce qui arrive à Trisolaris dans le roman, c'est que en fait, donc les trajectoires des étoiles étant chaotiques, la planète est même capable de passer d'une étoile à l'autre, qui vont la voir catapultée, rattrapée par une étoile, échanger avec une autre, tourner autour de deux étoiles, puis d'une, puis des trois. Donc on ne sait plus évidemment où est-ce qu'on habite quand on est sur cette planète.
On habite dans un roman quand on vit sur Trisolaris. Une planète inconnue dans la réalité, mais dont la trajectoire n'est plus en forme d'ellipse, mais en forme de 8, en forme de patate, ou alors en forme de barbe à papa. Et c'est ce qui rend son climat chaotique aussi.
C'est exactement ça. Ils ne savent pas quel temps il va faire le lendemain, et ça peut changer de manière drastique et raser toute vie en surface quand tout d'un coup on a trois étoiles qui s'y mettent pour chauffer la surface.
Mais dans la vraie vie, Proxima B tourne autour d'une naine rouge. Elle a d'ailleurs été découverte par un instrument conçu par l'équipe de Michel Mayor de l'Université de Genève. Elle est somme toute assez banale. Et j'imagine qu'aucun Proxima Centurion B ne vit dessus.
Non, alors, mais il y a quelque chose de vraiment intéressant. Alors, elle a le bon goût, et c'est une chance assez incroyable, je dois dire, d'être juste à la bonne distance de son étoile pour être ce qu'on appelle dans la zone habitable. La zone habitable, c'est l'anneau autour d'une étoile dans lequel, si on y met une planète, il va faire ni trop chaud parce que la planète est suffisamment loin, ni trop froid parce que la planète est suffisamment près pour que l'eau puisse exister à l'état liquide en surface.
Et l'eau, c'est la vie.
Voilà, on pense que effectivement, sans eau, on aurait beaucoup de difficultés à imaginer une vie comme celle qui existe sur Terre. Donc, pour chercher la vie, on cherche l'eau liquide. Hein. Et pour chercher l'eau liquide, on cherche des planètes dans la zone habitable. Alors, ça reste un endroit assez particulier parce que, donc je vous ai dit, l'étoile, en fait, elle est beaucoup plus petite que le Soleil. Elle est très très faible. Et donc, en fait, pour être juste à la bonne température, il faut être beaucoup plus près que la Terre du Soleil. Et en fait, l'année sur Proxima B ne dure que 11 jours. Et on ne sait pas s'il y a de l'eau sur Proxima B. Ça, c'est évidemment, c'est un des gros enjeux, hein, c'est d'essayer de détecter de l'eau sur une planète comme ça. Mais après, on n'est pas complètement sorti de l'auberge parce que la proximité à l'étoile, même si ça rend la température suffisante, ça pose d'autres problèmes.
Comme le fait d'avoir une année de 11 jours, c'est un peu chaud patate pour une alternance des saisons. Ou alors, ça ressemble à Genève en février.
Les saisons, c'est une des grandes questions et une des grandes incertitudes sur le climat d'une planète comme ça, c'est que la rotation de la planète sur elle-même n'est plus libre. Comme celle de la Terre, donc la Terre tourne en 24 heures sur elle-même, c'est le cycle des jours et de la nuit, et puis en 365 jours autour du Soleil. Alors une planète qui tourne en 11 jours autour de son étoile, en fait elle se voit imposer par la gravité très forte de son étoile une période de rotation qui est la même, c'est-à-dire 11 jours. Et Proxima B, vraisemblablement, montre toujours la même face à son étoile. Et ça rend le climat tout de suite complètement différent de ce qu'on connaît, parce que vous imaginez que, eh bien, il y a un endroit de la planète où il est tout le temps midi. Tout le temps. Et ça ne change jamais. Et si vous voulez changer d'heure, vous devez vous déplacer, aller au crépuscule, ou aller du côté nuit. Mais il y aura toujours un côté jour, un côté nuit qui ne changera pas. Et donc ça va, évidemment, l'abolissement du cycle jour-nuit, va entraîner des changements radicaux par rapport au climat, comme des planètes comme ceux de la Terre.
Et ce sera compliqué pour la vie.
Il se pourrait que s'il y a effectivement de l'eau sur cette planète, donc l'eau soit gelée du côté nuit, Et puis que du côté jour, en revanche, vous avez un trou sous le soleil, à travers la glace, où vous avez comme ça ces espèces de... Vous créez comme ça une espèce de planète qui ressemble un peu à un œil, avec une étendue d'eau liquide sous le soleil, qui peut-être s'évapore juste sous le soleil, c'est peut-être qu'il fait trop chaud. Donc ça, ce sont des questions très très actuelles en astrophysique.
Les exoplanètes, elles sont exotiques. Et c'est plus fort que nous. Elles nous attirent, elles nous intriguent. La première à avoir été découverte a valu un prix Nobel à Michel Mayor et Didier Collot, deux scientifiques genevois. Elle s'appelle 51 Pegasi b.
C'est une planète qui est très différente, vraisemblablement, de Proxima b. Alors déjà, c'est une étoile qui est semblable au Soleil. Et on a affaire ici, 51 Pegasi b, à une planète géante. Donc c'est une planète qui est du même acabit que Jupiter ou Saturne. Elle fait à peu près la moitié de la masse de Jupiter, c'est-à-dire quand même 150 fois la masse de la Terre, ce qui la disqualifie pour, par exemple, avoir une surface solide. Par contre, il y a une grosse différence par rapport à Jupiter ou à Saturne, c'est que cette planète-là, elle est très proche de son étoile. Et c'était d'ailleurs une des grosses surprises de cette découverte, c'est que personne n'y croyait. Parce qu'on pensait que les grosses planètes géantes devaient être loin de leur étoile, parce que c'est comme ça qu'on expliquait le système solaire. On a les petites planètes rocheuses qui se forment près de l'étoile, les grosses planètes géantes qui se forment loin.
Ah bah oui, si Jupiter avait été proche de notre Soleil, la Terre n'aurait pas eu sa place privilégiée.
Et puis, on a commencé à en voir d'autres, et surtout à réussir à expliquer pourquoi est-ce qu'on voit des planètes comme ça, et ça a entraîné une révolution, parce qu'il a fallu réexpliquer, à l'aune de ces découvertes, pourquoi, par exemple, le système solaire ne s'est pas formé comme ça, pourquoi Jupiter ne s'est pas rapproché du Soleil. C'est une question importante, parce que si Jupiter s'était rapproché du Soleil pour ressembler à 51 Pegasi b, eh bien, en fait, en vertu des interactions gravitationnelles, du problème à trois corps dont nous avons parlé, il est vraisemblable que la Terre ait été éjectée de son orbite et que nous ne serions pas là pour en parler.
Eh oui, regarder le ciel nous permet aussi de comprendre la Terre. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a toujours des surprises avec les exoplanètes.
Vous avez des exoplanètes géantes qui vont tourner autour de leurs étoiles en moins d'une journée. Et qui plus est, autour d'étoiles qui sont, pour le coup, plus chaudes que le Soleil. Significativement plus chaudes. Ce sont probablement les planètes les plus extrêmes de l'univers, d'une certaine manière, avec les climats les plus extrêmes, parce que donc ils sont toujours constitués de gaz. Mais le comportement de ce gaz est effectivement soumis à des niveaux d'irradiation démentiels. En fait, on s'est rendu compte que ça constituait un extraordinaire laboratoire pour crash-tester tous nos modèles climatiques. Parce que justement, là, on arrive aux limites où, en fait, le gaz, on va même casser les molécules pour ne laisser plus que des atomes du côté jour, qui vont se ruer du côté nuit à cause de la circulation atmosphérique intense qui s'y déroule. Et en se ruant du côté nuit, qui lui n'est jamais éclairé, alors il est possible que ces atomes, ce gaz d'atomes, se condensent. Et si on a du fer atomique, par exemple, eh bien, on pourrait imaginer que ce fer, il se condense côté nuit sous forme de fer liquide ou de neige de fer.
Quelque part dans notre galaxie, sur WASP-71b, il pleut ou il neige du fer. Et les scientifiques cherchent encore et toujours une petite boule semblable à notre Terre, avec de l'eau liquide et une atmosphère, et qui se trouverait à la bonne distance de son étoile.
En fait, la Terre, et c'est un peu une coïncidence cosmique, c'est le type de planète le plus difficile à détecter. Statistiquement, on pense qu'il en existe de nombreuses dans la galaxie, donc on s'imagine qu'il doit y en avoir quand même un grand nombre. La prochaine mission de l'Agence spatiale européenne auquel nous participons, qui s'appelle Plateau, va avoir pour but justement de détecter des planètes terrestres qui vont passer devant leurs étoiles, ce qui va nous permettre de les détecter sous forme d'une mini-éclipse. Dès que la planète passe devant l'étoile, ce qu'on appelle un transit, en fait, on a ce phénomène de petite éclipse et on a en plus un bonus qui est très intéressant, c'est que la lumière de l'étoile va être un tout petit peu filtrée par l'atmosphère de la planète en passant à travers. Donc grâce à ça, on peut remonter à la composition atmosphérique d'une exoplanète qu'on ne peut pas voir, ce qui est assez magique.
Et pour l'heure, il n'y a pas de Terre numéro 2, ni à notre connaissance de trisolariens qui vivent sur Proxima B.
Pourquoi mon orteil me fait si mal quand je le cogne? Pourquoi je dors? Pourquoi je rêve? Qui a inventé la seconde? Pourquoi le glaçon flotte dans mon verre? Où va la lumière quand j'éteins ma lampe? Mon ficus essaie-t-il de me parler?
C'est aussi grâce à une coïncidence cosmique que l'équipe de Microsciences s'est formée, de poussière d'étoiles. Il y a Camille Dupont-Laïte, coproductrice, qui veille à la finitude de chaque épisode. Mathieu Ramzaouar, réalisateur, gardien des ondes. Jérôme Nussbaum, à la nébuleuse musicale. Andrea Glanville, attaché de production, qui retranscrit les ellipses de chaque épisode. Moi, c'est Uma Camis, journaliste scientifique, qui s'envole dans quelques instants vers un nouveau monde passionnant. À bientôt.